Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour parler zombies en cette heure de repas. On va parler zombies avec trois auteurs. La thématique c'est zombies à gogo. Donc je laisserai définir gogo et zombie. Avec nous, nous avons
zombie.
Et voilà, je prends voilà. Go et go. Nous avons avec nous au milieu Camille Brissot, qui a notamment fait le club des métamorphes, le manoir au secret, le ventre prendra, les héritiers de Mantefaul, mais aussi dresseur de fantômes et ceux des limbes. Donc il y a une petite accointance quand même avec le mort-vivant. On en parlera ensemble. À ses côtés, Karim Berouka, le club des punks contre l'apocalypse zombie. Ça vous donne déjà une petite idée de ce qui se passe dedans. Et il vient de sortir un formidable roman qui s'appelle « Celle qui n'avait pas peur de Cthulhu » aux éditions Actu SF, formidable également. Et puis, à ses côtés, Lionel Béat. Lionel, on vous connaît pour « L'Auréole des condamnés », pour « Ubiquity », mais aussi pour « L'encyclopédie des revenants et des non-morts », qui est ici aux éditions du Héron d'Argent. Et donc, vous pourrez nous parler notamment des origines du zombie et peut-être du côté du vaudou. Un petit peu comment ils étaient à la base. Moi, j'ai d'abord une première question. Pourquoi avoir utilisé cette figure du fantastique, du bestiaire fantastique relativement classique? Camille, Karim, qui veut répondre en premier?
Camille. Alors moi, j'adore les zombies depuis toujours. Je sais pas pourquoi. J'ai suivi tout le Walking Dead, des choses comme ça. J'ai lu les comics. J'aime beaucoup aussi le bouquin qui est sorti chez La Talente. Celle qui avait tous les dons. Voilà, le jeu vidéo de Last of Us, tout ça. Enfin, il y avait quand même une imagerie zombie qui me plaisait pas mal. Et après, je trouve que ça a collé avec en fait un de mes thèmes favoris, qui est très très sinistre, la mort. J'adore écrire sur la mort en fait. Et l'écrire en fait, je trouve que ça permet quand même une certaine variété, puisqu'on peut la traiter avec le thème du fantôme, des choses comme ça, et avec le zombie. J'avais encore jamais essayé le zombie. Donc je me suis dit que j'allais tenter. Alors, j'avais pas envie de l'appeler zombie parce que mon bouquin est sorti il y a un mois. Je pense que la folie zombie, c'était il y a un ou deux ans, donc j'avais peur d'être complètement has-been. Alors, je me suis dit, je vais astucieusement changer le mot zombie. Et du coup, chez moi, il s'appelle les limbes. Donc, parce qu'ils sont piégés dans les limbes entre les vivants et les morts. Donc, voilà, je me suis dit que ça allait suffire à ne pas être trop ringarde.
Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans la figure du zombie?
Alors pour moi, c'est vraiment pas un personnage à part entière, c'est plus un élément du contexte, c'est presque un élément du décor. En fait, c'est une espèce de menace un petit peu sournoise qui permet d'avoir une sorte de huis clos, d'avoir tous les personnages rassemblés à un endroit, avec cette idée de survie aussi qui est très forte derrière. Et aussi, tout bêtement, de mettre un antagoniste qui a l'air très flippant pour au final s'apercevoir à la fin que le plus flippant, c'est pas le zombie, mais c'est parfois les comportements qu'il crée chez les personnes qui ne sont pas encore zombies. Donc les vivants, quoi.
Karim, pareil. Donc des punks à Paris, entourés de zombies.
Oui.
Pourquoi?
Parce que. Pourquoi Oh, c'est marrant. C'est un bon faire-valoir. C'est bien de mettre des trucs assez horribles qui font courir tous les gens dans tous les sens et justement qui leur permettent d'avoir des réactions complètement débiles et complètement. Non, c'est bien. Ça sort pas à grand chose. Ouais, c'est vraiment le faire valoir en fait. C'est le truc qui est horrible, qui va faire peur à tout le monde et qui va révéler le meilleur et le pire chez les gens. Alors surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était justement pas mettre des gens qui étaient aptes à survivre dans ce genre de milieu, c'est-à-dire des bons Américains ou des gens qui ont plein de carabines et de fusils mitrailleurs ou qui sont entraînés à égorger des gens, quoi. Donc des punks. Donc des punks en France, donc ils sont pas armés, puisqu'en France on n'a pas le droit d'être armé, ce qui est très bien. Et puis surtout, voilà, comment vont réagir un groupe de personnes devant une situation qui est complètement aberrante, qui est fantastique, hein, qui n'arrivera jamais. Mais voilà, ça m'amusait de les mettre en situation. Et plutôt que d'avoir des punks qui se révoltent contre le système, et on va avoir des punks qui ne vont plus pouvoir se révolter contre un système qui n'existe plus. Donc voilà, et ils vont découvrir que il va falloir lutter contre des choses un peu horribles qui pensent qu'à une chose, alors bouffer la cervelle. Voilà, c'est juste Voilà. Je pense que ça résume le truc à peu près, je sais pas.
Lionel, comment est-ce que vous avez traité le zombie dans votre encyclopédie ? C'est un revenant, c'est un nom mort ?
C'est un revenant et un nom mort, oui. Le terme de revenant peut être assez général, comme le terme de nom mort. C'est-à-dire, ça englobe tout ce qui est fantôme, vampire et zombie. Voilà. Donc la différence entre les trois, c'est que déjà le fantôme ne peut pas être touché, généralement. C'est plus une forme évanescente, voilà. Le vampire, lui, renaît sous forme humaine et plutôt sous forme de séducteur. Voilà. Alors que le vampire, du moins le vampire, le zombie actuel, revient avec la chair en putréfaction, voilà, de manière assez effrayante. Ce qui n'était pas le cas, effectivement, à l'origine.
Les zombies de Camille et Karim sont plus côté Romero que vaudou, véritablement. Quelle est la différence ?
Alors, effectivement, à l'origine, les zombies proviennent donc de mythes africains, puis donc avec l'esclavage, ça a surtout été connu sur Haïti, donc avec le vaudou haïtien. Et à ce moment-là, effectivement, les personnes qui revenaient à la mort suite aux incantations des prêtres vaudous, revenaient sous forme avec une apparence humaine. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas les distinguer des vivants. Et ce qui a fait la différence, c'est le film de 1968, La Nuit des Morts Vivants, qui effectivement a changé l'apparence du zombie. Et qui maintenant, effectivement, a la chair en putréfaction, incapable de parole, contrairement aux vampires, si c'est une différence, par exemple, qui marche généralement en claudiquant, qui cherche à se nourrir de la cervelle, ou du moins des vivants, ce qui n'était pas le cas dans le folklore haïtien.
Il n'est pas très. Le zombie haïtien, il n'est pas très méchant, il est juste complètement soumis et amorphe. Et il était. L'idée, c'était de transformer des gens en zombies pour les exploiter, en fait. Et qu'il y a peut-être une base historique, en fait, qu'on aurait drogué des gens à l'époque pour les mettre dans des états de zombification. Mais le zombie haïtien ne courait pas après les gens en hurlant, en voulant dévorer ses.
Ouais, exactement, oui. Effectivement, les substances qui auraient été utilisées sont des substances que l'on trouve. Sont assez proches de la substance que l'on trouve dans le poisson fugu. Voilà, que les cuisiniers japonais veulent absolument enlever lorsqu'ils cuisinent ce poisson. Et ça rendrait donc des vivants donc, dans un état proche de la mort. On les aurait inhumés, puis on les exhumait plus tard, et le prêtre vaudou les faisait revenir à la vie. Mais en fin de compte, c'est des personnes qui n'étaient jamais décédées.
Et dans ce délimbe, ils sont plutôt Roméo ou vaudou? Ils sont comment, tes zombies?
Ils sont ni vraiment ni l'un ni vraiment l'autre. Ils sont pas si dégueulasses que ça quand même, mais quand même un petit peu, parce que je pense que l'idée du zombie aussi, et pourquoi il est aussi effrayant en fait, c'est que c'est juste la vision de ce qu'on va tous devenir à un moment, cette putréfaction, et ça fait pas rêver, mais bon, c'est les faits. Et moi, les miens, alors en fait, c'est fait par un champignon, en fait. C'est un champignon donc, qui s'appelle le limbe et qui les parasite. En fait, ce champignon, il a juste pour but de se propager. Et du coup, ils ne bouffent pas les cervelles des autres. Ils se contentent juste de les griller, de les griffer ou voilà, de les contaminer avec du sang ou n'importe quel fluide. Et ils ont une particularité, c'est qu'ils ont un chant horrible qui fait déprimer tout le monde. Donc voilà, le chant des limbes, le chant des sirènes un petit peu, qui paralyse et qui permet d'attaquer.
Est-ce que sur le champignon, je sais qu'il y a des études là-dessus sur les champignons qui rendraient zombies certains animaux.
Oui, c'est inspiré d'un fait réel. Oui, c'est le cordyceps, je crois, l'ophiocordyceps, quelque chose comme ça. C'est un champignon qui existe déjà. Alors heureusement, il ne s'est pas encore attaqué à l'être humain, mais pour l'instant, il s'en tient à la fourmi. Mais c'est assez horrible ce qu'il fait en fait. Il se répand du coup. Par des spores, et la fourmi l'avale plus ou moins, ça la force à monter tout en haut d'un arbre, et là en fait il pousse, il lui transperce la tête pour pouvoir après remettre encore des spores et pouvoir en contaminer d'autres. Donc ça, c'est effectivement un fait réel derrière, et je crois que c'est aussi ça qui a inspiré le jeu vidéo de Last of Us. Donc c'est le même, mais je trouvais ça vraiment bien horrible, cette idée du parasite et du champignon, et ça me plaisait bien.
Karim, comment on devient zombie dans les plugs?
Il faut faire l'école des zombies.
Alors, très bien.
Voilà, il faut avoir des bonnes notes, déjà. Moi, c'est vraiment, quand je parle de faire valoir, c'est vraiment ça. Hein. Le zombie du bouquin, on sait pas comment il arrive. Ça me semblait pas très intéressant dans le cadre de ce livre-là. On sait pas d'où il vient. On sait juste qu'un matin, la moitié de, enfin, les la totalité de Paris a été éradiquée et les survivants sont zombifiés. Ils se courent après pour essayer de se dévorer. On ne sait pas pourquoi. De toute façon, c'est que c'est ça pas. Logiquement, c'est un peu difficile de trouver une vraie raison pourquoi tout d'un coup ton voisin a envie de te dévorer. Alors bon, ça peut être. Il y a des vagues pistes qui sont lancées par les protagonistes du roman, mais comme ils y connaissent rien, elles sont aussi valables que.
Est-ce que tu peux nous raconter, tu as un personnage qui se déguise pour passer incognito au milieu des zombies?
Oui, alors ça semble assez logique en fait, même si Romero n'y a pas pensé. C'est qu'en fait, pour passer à travers des zombies, il vaut mieux ressembler à un zombie. Donc il se met de la barbaque partout autour de lui et il marche comme ça. Et je pense que je vous le conseille, si jamais il y a un problème, il y a une invasion zombie, essayez quand même, on sait jamais. Soit vous courez vite, soit vous vous collez des tonnes de barbaques pourrissantes. Alors c'est pas terrible, surtout qu'après, je pense que ça, vu qu'il n'y a plus d'eau courante, je pense qu'il va mourir dans d'atroces souffrances. Mais bon, voilà, survivre, c'est important. Mais en fait, moi j'aime bien cette idée de personnage qui est votre voisin, qui est votre frère, qui est votre sœur, votre mère, qui tout d'un coup devient une sorte de monstre horrible et de monstre à qui on peut pas raisonner, on peut pas parler parce qu'il est complètement idiot et qu'il a qu'une seule envie, c'est de dévorer ce qu'il croise. Et c'est vraiment une sorte d'archétype de la peur, c'est de concrétisation de la peur ultime. Et donc ça permet, à côté de ça, d'imaginer plein de choses. Mais l'histoire du zombie en lui-même, elle n'est pas très intéressante. Quoi. Logiquement, il devrait pourrir au bout de quelques jours, perdre des bouts. Il n'y a que dans les films où les zombies arrivent à tenir plus d'un mois. Quoi, en fait. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas si résistants que ça. Quoi.
Lionel, c'est vraiment la figure fantastique ultime, le zombie?
Non. Non, il y en a d'autres. Je veux dire, le vampire, par exemple, peut l'être. Aussi, le fantôme. Donc non, il y en a plusieurs. Figures.
Dans le sens où le vampire, éventuellement, on peut essayer de converser pour certains. Ils forment parfois des sociétés dans la littérature.
Hein. Mm-hmm. C'est
pareil sur les fantômes qui sont l'esprit de revenants, donc qui souvent ont un petit message à faire passer. Parfois. Alors que le zombie n'a pas de message, il se contente juste d'exister, de ne pas parler, d'être là et de perdre des bouts.
Le zombie moderne, oui. Ouais. Le zombie haïtien était doté de paroles. Voilà. Effectivement, donc pour en venir sur le débat sur l'origine de la zombification, effectivement, on peut remarquer qu'au départ, c'était plutôt des incantations magiques qui permettait la zombification. Aujourd'hui, ce qui revient le plus souvent, même s'il peut y avoir plusieurs causes, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est tout ce qui est épidémie, contamination, ce genre de choses. Donc on est très loin des incantations magiques. Ça a bien évolué. Voilà, aujourd'hui. Donc le personnage des zombies a énormément évolué, effectivement.
Dans le film de Romero, c'était un satellite radioactif qui tombait sur Terre. Hein, donc bon. C'est une explication comme une autre, mais je crois qu'on peut mettre ce qu'on veut.
Mais il faut une contamination au départ et ce n'est plus les incantations magiques de prêtres ou genre de choses comme à l'origine.
Camille, dans une des chroniques de ton livre, il y a une chroniqueuse qui disait: j'ai ressenti de la peine pour ces êtres dépossédés de toute humanité. C'est cette ambivalence qui fait la richesse de cette espèce de zombie. En gros, ton zombie, tu l'as en creux presque fait devenir humain.
C'est pas que je l'ai fait devenir humain, c'est qu'à la base c'est un humain en fait. Et en fait l'idée dans le roman c'était un peu de montrer ça aussi, la figure du zombie, c'est comme Karim le disait, c'est ce qui est horrible, c'est que c'est quelqu'un de proche, quelqu'un qu'on a connu qui devient tout à coup quelque chose d'autre et on continue à voir derrière en creux tout ce qu'il a été avant. Donc c'est cette idée qui est compliquée et dans mon bouquin en fait ça se passe, alors pas en pleine apocalypse zombie, ça se passe bien après, des années après. Donc tout s'est cassé la gueule, la nature a vraiment repris ses droits, ça c'était un thème qui était important pour moi. Et il y a une communauté qui a réussi à survivre et qui justement a érigé le concept de survie comme une philosophie et un principe de vie. Et pour ça, ils ont complètement enlevé toute la partie humaine des zombies qui pour eux sont juste des monstres dégueulasses qu'il faut absolument abattre au plus vite. Et il y a des personnages qui effectivement, eux, continuent à voir derrière des proches dans ces zombies-là. Et il y a, oui, effectivement, des opinions qui se confrontent.
Ouais, une vraie différence. Est-ce qu'il y a une jouissance à faire mourir un zombie, cette espèce de punching ball qu'on peut démembrer à loisir et perdre nous-mêmes toute humanité?
pas spécialement parce que c'est un peu facile en fait, c'est pas alors les miens de zombies, mais limbes, ils sont lents en plus, ils sont pas rapides, c'est pas ceux qu'on voit dans par exemple le film World War Z où ils font comme des fous et ils arrivent à sauter par-dessus des murailles géantes. Là c'est pas du tout ça, ils sont plutôt lents, ils sont, on les voit venir, donc franchement il faut vraiment pas douer pour se faire avoir. Et ce qui est plus jouissif je trouve, c'est de faire tuer justement un personnage principal par un zombie, ça c'est plus intéressant.
Ouais. Pareil Karim?
Non, moi je fais partie de la ligue de protection des zombies, je refuse. Non, pas spécialement. De toute façon, ils sont là pour un peu passer sous les roues des camions, donc de toute façon, ils vont pas faire grand chose. Voilà.
Est-ce que c'est dans un roman?
Alors, peut-être que dans une série ou un film, un truc visuel, c'est plus amusant. Mais dans un roman, bon, ouais, on va pas s'attarder sur le fait qu'on a zigouillé ou dézingué 12 zombies le matin. C'est pas très intéressant, quoi, en fait.
Mais est-ce que c'est jouissif? Ça aurait pu être des schtroumpfs, par exemple.
Ah, ça aurait été mieux, des schtroumpfs.
On a eu de l'empathie pour les schtroumpfs.
Mais t'as pas voulu les schtroumpfs. Tu m'as dit que Peyo était pas d'accord. Les schtroumpfs zombies.
Les schtroumpfs zombies. Mais tu vois, dans cette espèce de figure sur laquelle on peut vraiment complètement se défouler en tant qu'écrivain.
Non, moi c'est pas ça qui m'intéresse dans le bouquin. Ce qui m'intéresse, c'est les autres personnages. Ces autres personnages qui sont mis dans une situation vraiment de conflit extrême entre des choses qui ont aucune raison, aucune intelligence et rien. Et puis tout un monde qui s'écroule, qu'on va vouloir reconstruire sur les ruines de la société. Et avec une ville qui est restée la même finalement, parce que prenons la ville, enlevons tous les habitants, on garde les structures, on garde l'architecture, on n'a pas eu une apocalypse nucléaire, donc on garde ça et on veut reconstruire à partir de ça. Donc le zombie, c'est une sorte de menace qui dit attention les gars, vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez, on a tout cassé, mais on sait pas pourquoi, on sait même pas qui on est, mais sinon, non, ça m'intéresse, c'est pas le...
Sur ce côté jouissif, moi c'est un roman ado, et c'est vrai que c'est possible que ce soit plus facile de faire des choses horriblement gore avec un zombie qu'être dans un roman classique avec un vrai personnage. Donc peut-être qu'effectivement, ça m'a permis de faire des trucs que j'aurais pas fait dans un roman non de zombie.
Lionel?
Dans les différentes mythologies qui mettent en avant des morts-vivants, on retrouve effectivement le point commun de la difficulté de se débarrasser du mort-vivant. Par définition, il avait déjà été mort, donc c'est difficile de le tuer une deuxième fois, mais il y a toujours un ou deux moyens qui permettent de le tuer, que ce soit les dogres islandais ou les ghouls, j'y pense en le voyant écrit derrière, les ghouls de la mythologie saharienne, par exemple. Par exemple, le ghoul, on ne peut le tuer qu'en le frappant sur la tête. Voilà. Et c'est très difficile d'éliminer une ghoul. Donc c'est quelque chose que l'on retrouve aussi dans toutes les mythologies, c'est la difficulté de s'en débarrasser pour quelque chose qui a déjà été mort.
Et vas-y.
C'est le cafard du fantastique, le zombie. Et les vieux zombies, les zombies historiques, il fallait leur mettre du sel dans la bouche, leur coudre les lèvres, mais seulement pendant au moment où ils étaient en train de dormir. Donc c'est un peu...
On retrouve la même chose pour les vampires, où il n'y a aussi que des manières très précises de les éliminer. Que ce soit le pieu dans le cœur, par exemple. La lumière du soleil. Voilà.
Et est-ce qu'on a des formes de zombification dans toutes les cultures, comme par exemple le vampire est souvent sous différentes
oui,
formes.
Mais c'est encore plus présent pour le vampire. C'est vraiment le vampire qui est vraiment très étonnant parce que, concernant des civilisations qui n'ont eu aucun lien entre elles, on retrouve le même thème. La créature buveuse de sang du vivant. Une créature morte qui revient à la vie pour boire le sang. Ça peut être aussi d'autres substances humaines. Hein. Ça peut être la chair comme les zombies, mais ça peut être aussi la substance intellectuelle. Mais on trouve dans des civilisations des créatures qui ont mangé les excréments des humains, par exemple. Ou genre de choses, ou des parties du corps humain. Voilà, les bébés à la naissance aussi.
Mais le zombie moderne, là, il apparaît, comme tu dis, dans les années 50, enfin, les années 50, hein, 60. Mais c'est un mythe moderne, c'est vraiment le meilleur exemple qu'on ait d'un mythe qui a une cinquantaine d'années, pas plus, alors que le vampire c'est un mythe qui est ancré dans l'histoire de très très européen, mais qu'on retrouve aussi en Chine, ou qui est assez différent quand même. Et pareil pour tout ce qui est fantôme, alors que le zombie n'existe pas il y a 50 ans, il n'y a pas de zombie en fait, à part à part ce vieux zombie haïtien qui est quand même très différent, quoi.
Et qu'est-ce que ça dit de nous, justement ? Camille, tu voulais intervenir ?
Non, je voulais juste dire un truc aussi sur le zombie, par rapport à ce que, je ne suis pas du tout une spécialiste du zombie ancien, légende, mais j'imagine que c'était des zombies quand même qui étaient faits au cas par cas, quoi. Haïti, ils n'en créaient pas 12 000 d'un coup. C'était des choses aussi plus unitaires, alors que oui, le zombie moderne aussi, l'idée du zombie moderne, c'est qu'ils sont très nombreux. C'est ça aussi qui est intéressant.
Et dans leur déplacement aussi, effectivement, voilà, ils se déplacent, le zombie moderne se déplace toujours en
horde. C'est une horde,
ouais,
et c'est ça que je trouve, en temps après, pour l'écriture, etc., moi je trouve que c'est intéressant d'écrire avec une horde, parce qu'il y a un aspect tout de suite qui est un peu plus flippant, et bon, c'est aussi un peu de la facilité peut-être, mais je trouve ça pas mal.
Avec un déplacement qui va toujours dans le même sens, c'est
oui,
vraiment
oui,
le troupeau, quoi.
Tout droit.
Le troupeau. Voilà, qui, s'il y en a un qui tourne la tête pour être dans une direction, tous les autres vont faire la même chose. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, pour les zombies traditionnels.
Et alors, qu'est-ce que ça dit de nous, vous pensez, que cette résurgence du zombie, cette mode qui peut-être passe un petit peu maintenant,
ouais, c'est la peur de la mort au départ, hein, tout simplement. Hein.
Ouais.
Tout ce qui est fonte, tout ce qui est revenant et non mort, c'est tout simplement la peur de la mort que tous les hommes, quel que soit leur continent, quelle que soit leur époque, ont en eux, intrinsèquement. Voilà, et c'est, on espère toujours que ce soit par religion ou par des mythes. Tout le monde au fond de soi peut espérer peut-être renaître, soit de manière terrifiante, soit pas, mais enfin voilà, c'est le fait de vaincre la mort qu'on a tous au fond de nous, ce désir irrationnel.
Enfin, vaincre la mort, mais peut-être pas de la manière zombie. Enfin, non, moi, ça m'intéresse moyen de ressortir comme zombie. Mais je pense que aussi derrière, il y a l'idée en fait du chaos qui arrive dans une société. C'est ça, le zombie, il vient tout bousculer, comme dans ton bouquin, j'imagine. Ou du coup, comme tu disais, on garde la ville, on repart tout à zéro. Et je pense que c'est aussi révélateur d'angoisse là-dessus. Je pense qu'on a tous tellement de mauvaises nouvelles au quotidien que c'est compliqué de se dire que tout va bien se finir. Et que ça révèle ça aussi derrière, et que je pense qu'on est aussi tous... Enfin, je sais pas, moi j'ai une petite passion pour tous les trucs un peu post-apocalyptiques, le survivalisme, les choses comme ça, je trouve ça très intéressant, et avec cette idée que qu'est-ce qui se passait aussi si ça nous arrivait à nous, est-ce qu'on ferait partie des survivants ? Je pense qu'on est nombreux à se dire que oui, on en ferait partie, alors que en fait, je pense que c'est pas du tout réaliste, moi je pense que je mourrais très vite, et voilà, donc ça permet de s'interroger là-dessus aussi.
Alors, pour en revenir sur ce que tu disais, renaître sous forme de zombie, effectivement, ce n'est pas un fantasme. Dans la plupart des mythologies, effectivement, quand on renaît sous forme de zombie, on va dire malveillant, c'est quelqu'un en plus qui a eu une vie qui était peu vertueuse, on va dire. Voilà. On retrouve souvent ça dans les mythologies, le fait de renaître sous forme de zombie, voilà, de manière...
Comme Jésus-Christ qui est renaît. Qui est revenu après sa vie pour vivre.
Alors lui, il ressemble plus dans ce cas à un vampire, parce qu'il avait forme humaine, si je puis dire, et était capable de parole.
Ouais, il mange de la chair humaine. Hein. Non, moi je dirais que le zombie, c'est aussi une plus qu'une peur de la mort, c'est aussi une peur de l'autre, en fait. Une peur de l'autre, et c'est assez symbolique de la période dans laquelle on vit. C'est qu'il y a une incompréhension de l'autre et pas forcément de la personne qui habite à l'autre bout du monde et qui a une vie qui est une culture très différente, mais du voisin. Voilà. C'est aussi cette incompréhension qu'on a de plus en plus, par exemple, dans les grandes villes, où il n'y a plus le tissu social disparaît, où le voisin ou le type qu'on croise dans la rue n'est pas forcément quelqu'un à qui on a envie de dire bonjour. Et je crois qu'il y a une sorte de. Je crois que ça contribue à ça, en plus de la peur de la mort. Cette peur impossible d'identifier et de savoir vraiment qui est avec qui on vit au quotidien et est-ce que ces personnes vont pas tout d'un coup basculer et devenir bon pas des zombies parce que ça c'est pas très crédible mais un type horrible un tueur en série un type qui va un violeur ou je sais pas quoi il y a cette peur qui est présente aujourd'hui probablement inconsciemment, mais qu'il est de plus en plus dans les villes, qu'il était peut-être moins il y a 10, 20, 30, 50 ans. Et c'est peut-être pour ça qu'on a cette mode du zombie et de cet être indéfinissable et impossible à raisonner qui tout d'un coup apparaît. Et il apparaît pas, il vient pas de l'espace, il vient pas des enfers, il vient d'ici, il vient de la salle. Voilà. Ou d'ici, hein, bah, on fera des bons zombies.
Alors, en même temps, sur l'autre, ça veut dire l'autre est représenté comme quelqu'un qui n'a pas d'humanité, qui est bien plus nombreux que ceux qu'on
masse,
comprend.
Ouais, la masse incompréhensible des gens qui...
C'est une vision un peu horrible et un peu extrême, quoi.
Bah, c'est un fantasme, c'est pas une vision, c'est une peur qu'on va concrétiser, qu'on va mettre dans un bouquin ou dans un film, voilà. Comme on a pu, pendant les périodes de guerre froide, faire beaucoup de bouquins sur les apocalypses, sur les invasions extraterrestres, parce que c'est des peurs qu'on va transformer en une sorte de matériel narratif et qui est pas si concret que ça. En fait.
Et qu'est-ce qui domine, Camille, chez toi, c'est le côté le fantasme de la fin de la civilisation ou le côté survivaliste, on est une poignée, on s'organise pour.
C'était un peu les deux, clairement. Moi, j'aimais bien aussi, j'aime bien travailler de manière visuelle et j'aimais bien l'idée d'avoir tous ces paysages de ruines qu'on voit parfois dans des arts ou dans des films où justement tout a été détruit, l'idée d'une ville en fait qui a été rendue à la nature, où la nature a repris possession, a tout végétalisé. J'avais vraiment envie de partir sur ce genre d'univers et c'est vrai que le zombie c'était la manière en fait tout bêtement la plus simple en fait d'éradiquer tout le monde au milieu sans casser non plus un peu les meubles et le décor. C'est un peu plus efficace qu'une bombe par exemple et puis c'est à la fois beaucoup plus brutal et effectivement moi j'ai un peu triché sur le côté peut-être crédibilité, mais oui, ils vivent plus d'un mois et ils se décomposent très lentement, ce qui permet en fait de faire durer la menace longtemps et effectivement après de réfléchir à une société qui s'organise là-dessus.
Ils sont nombreux à s'organiser dans ton livre ?
Non, ils sont pas très nombreux. Ils sont pas très nombreux et en fait ils s'organisent sur une montagne parce que au début, la première version du bouquin, j'avais écrit dans un univers très technologique. Ils avaient survécu grâce à la technologie. Ça me plaisait pas. J'ai voulu vraiment repartir derrière sur l'idée que si jamais ça arrive, ça me semblait plus crédible que vraiment ceux qui survivent le font avec les moyens du bord et du coup il y a un vrai recul de toutes les connaissances de tout ça, qu'il y a un vrai recul de la civilisation humaine et du coup ils sont peu nombreux. Ils sont tous au même endroit. Avec une organisation très stricte et pas très agréable au quotidien. Et par contre, ils ne savent pas, évidemment, s'ils sont les seuls ou pas derrière, puisqu'ils sont coincés, isolés sur leur montagne au milieu de la forêt.
Et tes punks, comment ils réagissent ? Moi, je connais la réponse.
Plutôt bien, en fait. Ils sont plutôt heureux au début. Ils ne comprennent pas tellement. Ils sont un peu défoncés. Donc c'est un peu... fait un peu l'avantage de prendre de la drogue. Quand c'est la fin du monde, on souffre un peu moins. Et puis après, ils veulent s'organiser et ils veulent vite reconstruire une société. Donc, ils ont une sorte de leader politique là, qui est un peu et qui veut reconstruire une société sur des bases plus justes. Il veut que l'anarchie enfin ait son droit de cité dans le monde. Donc, ils vont se retrouver rapidement confrontés à d'autres personnes, d'autres survivants, parce qu'il y a toujours d'autres survivants. Hein. C'est toujours très bien d'avoir des antagonismes comme ça. Et ces autres survivants veulent rétablir l'économie de marché. Donc, évidemment, ils s'entendent pas très bien. Et puis, ça permet de faire plein de petites choses dans le roman. Donc, mais l'idée générale, c'est détruit tout de suite. C'est détruit. On va pas en discuter. On va reconstruire. On va essayer de construire. Le but, c'est pas de survivre et d'être misérable avec un groupe de 50 personnes qui traverse le Dakota et qui perd tous les trois pages les plus faibles de la bande. C'est vraiment de se poser. Donc, ils choisissent un lieu à Paris où il leur semble que c'est plus sympa à occuper et plus facile à défendre. Ils essaient de récupérer des survivants pour effectivement se dire que les zombies vont pas rester éternellement. Il faut construire quelque chose et puis il faut le faire sur de bonnes bases. Voilà. Donc il y a plein de petites aventures, plein de.
Camille, tu voulais réagir ?
Non.
D'accord. Lionel, sur cet aspect, est-ce que ça te semble juste sur cet aspect chute de la civilisation ? Dans les histoires de zombies modernes et sur les.
C'est vraiment très très moderne ça. Ouais. On le trouve pas dans les différentes mythologies. C'est vraiment très récent, moins de 50 ans comme les Karim. Donc voilà. Moi j'ai plus étudié dans cette encyclopédie les mythologies. Donc les morts vivants qui n'avaient rien de moderne et qui existaient dans des civilisations anciennes plutôt.
Et donc tu sens.
Mais par contre, c'est tout à fait exact ce qui a été dit, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, le zombie est lié à la fin du monde, à l'apocalypse, ce genre de choses. Et c'est l'histoire de survivre non seulement aux zombies, mais survivre à l'apocalypse.
Est-ce que ce que disait Karim, que le zombie soit un creuset pour dire autre chose, te semble juste ?
Oui, encore une fois, pour les zombies modernes, on laisse passer des messages. De survie, on met en avant aussi beaucoup les valeurs humaines des vivants qui restent. Certains, on voit, vont pencher du côté obscur tout en restant humains. Par contre, d'autres vont au contraire se révéler héroïques ou ce genre de choses. Voilà. Et on trouve ça effectivement dans la vision moderne du zombie. Ouais, pour les survivants, je parle pas pour ceux qu'ils sont devenus.
Il est gentil et méchant dans tes survivants, Camille ?
Bah, évidemment, il y a gentil et méchant dans la société normale, donc forcément ça se traduit également dans cette société-là. Et puis bah, c'est vrai que quand il s'agit juste de survivre, parfois on est encouragé à avoir des comportements plus égoïstes et parfois aussi les méchants sont du coup favorisés par nature. Après, moi là encore, c'est comme mon histoire se passe après, on n'est pas vraiment dans la survie tout de suite et immédiate, c'est une survie qui s'est organisée et du coup c'est plus au niveau de la société quoi. La société, en tout cas ma société, elle est très particulière parce qu'ils ont conscience d'avoir régressé énormément, d'avoir perdu beaucoup de choses, ils essaient de conserver le peu de connaissances qu'ils ont gardées, mais c'est pas facile, et du coup en fait ils ont tout simplement mis en place une organisation pyramidale, en haut les plus importants, ceux qui ont les savoirs et etc, et en bas ceux qui servent à rien, qui font juste les tâches du quotidien, comme ça le jour où il y a une horde de zombies qui arrive et qui déborde, et en fait il faut que ceux qui se fassent manger en priorité, c'est ceux qui ont le moins d'importance pour la société.
D'accord. Sympa. Très bien, sympa. Chouette, hein. Ouais, logique. Karim, tu veux dire quelque chose ? C'est pas tout à fait pareil pour toi, parce qu'il y a un leader qui a une conscience politique et les autres, peut-être un petit peu moins, quoi.
Oui, et puis ils sont pas organisés, hein. Ça se passe, ça commence le jour où les zombies arrivent, donc c'est pas...
Ouais, la première action, c'est de faire de la musique, hein.
Ouais, c'est de mettre sur un toit et de jouer du punk, parce que... Et donc ils s'aperçoivent que les zombies dansent quand ils jouent du punk. Voilà, bon, bref. Et puis quand ils jouent d'autres sortes de musique, ils font autre chose. Mais ça c'est pas vrai. En fait, les vrais zombies n'aiment pas la musique.
Et quand on utilise le zombie, est-ce qu'il y a un poids sur les références ? En gros, on parle de Romero, on parle de Walking Dead. Est-ce que du coup il y a un poids en se disant il faut que je sois dans le canon ou au contraire je fais un pas de côté ?
C'est comme on veut, hein. Je sais pas, c'est écrire un bouquin, c'est aussi se donner des libertés. Moi, l'idée, c'est justement prendre des archétypes et en faire un peu autre chose. Enfin, et surtout pas suivre les. Mais après, effectivement, il y a des trucs que je vais respecter en disant, bah voilà, ils ont été mordus, ils sont pas forcément morts et redevenus vivants, mais ils ont été au moins mordus par un autre zombie, ça, voilà, la transmission par morsure ou par. Et puis ils veulent manger des cervelles. Mais, voilà, c'est assez accessoire. Hein.
Camille ?
Ouais, c'est vrai que c'était pas facile pour moi parce que comme il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été faites, on n'a pas forcément envie de faire la même chose que les autres. On n'a pas envie non plus que quelqu'un accuse que ce soit un petit peu un copier-coller ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas facile, mais comme le dit Karim, en même temps, il y a quand même des passages obligés. Donc effectivement, cette histoire de contamination, de contact, l'idée aussi de la horde, encore une fois. Donc on est un petit peu obligé d'en passer par là. Enfin, on n'est pas obligé. Moi, j'ai préféré en rester là. Et après, j'ai essayé de le traiter d'une manière, oui, un petit peu différente, déjà en changeant le nom, mais en insistant plus sur le côté affreux que leur vision suggère, plus sur le côté derrière psychologique, avec justement l'idée de l'écho de ce qu'ils ont été.
Et est-ce qu'il y a un espoir de rédemption ou pas du tout ? Ils sont morts, au pire, ils vont trouver une solution, ils meurent.
Au terme individuel, ils sont foutus, eux. Ouais. Par contre, en terme collectif, oui, il y a un espoir.
Bibliquement, oui, puisque ce sont les morts qui renaissent. Normalement, ils devraient aller au paradis quand la Jérusalem céleste arrive. Bon, monsieur.
Évidemment.
Mais bon, évidemment, voilà. Alors, enfin, la fin du monde, on oublie tout sur Jésus-Christ, et puis après... On va adorer des faux dieux, tout. Ouais.
Lionel, est-ce que il te semble avoir une, il y a une grosse, il y a une grosse mode, par exemple des vampires, un petit peu des fantômes, les zombies viennent de passer et perdurent un petit peu. Est-ce qu'il y a une logique dans la progression ? Est-ce qu'il y a un personnage archétypal de fantastique qui te semble émerger désormais ?
Là, comme ça, je vois pas. La mode des extraterrestres est un peu passée de mode justement. Les fantômes restent, on va dire, à un niveau correct, mais sans vraiment de références qui d'un coup les font surgir, on va dire. Pas vraiment, donc ils sont assez stables. Effectivement, les vampires connaissent encore, mais ont eu un boom assez récent à partir, on va dire, de Buffy contre les vampires, je pense. À partir de cette époque-là, c'est-à-dire fin des années 80, je dirais. Ouais. 90, voilà. Oui, aussi. Voilà, et effectivement, on a actuellement les zombies qui reviennent, qui donc avaient été mis à la mode en 1968, hein, donc par le film dont on a parlé, et qui effectivement ont eu de nouveau une petite poussée à la mode avec Walking Dead, qui effectivement était une révolution dans le monde des séries, parce qu'il n'y avait aucune série qui ressemblait à ça, enfin ma connaissance, en tout cas qui a marché, aucune série qui ressemblait à ça auparavant. Voilà. Après, est-ce qu'il y a une autre créature actuellement récente là qui serait à la mode, on va dire, dans les 10 prochaines années? Je sais pas. Je sais pas si mes collègues ou même le public auraient une idée.
Je sais pas, Emmanuel Macron. Ah.
Là, comme ça, je vois pas. Là.
Et là, c'est vraiment effrayant. est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'on peut tirer quelque chose de la progression, entre guillemets, de l'enchaînement des figures du fantastique comme ça, puisqu'on disait que le zombie était un peu la figure fantastique ultime?
Ah, je pense que c'est une œuvre qui fait tout basculer. Une œuvre, ou après, d'autres œuvres comme ça, qui sont des œuvres phares. Je ne pense pas qu'il y ait une progression très, 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 très linéaire. La nuit des morts vivants reste la référence. Alors après, il y a des modifications, hein, comme pour les vampires. Maintenant, les vampires n'ont plus peur de la lumière, ils peuvent marcher en plein jour sans souci. Donc, effectivement, il y a des évolutions comme ça qui apparaissent, mais c'est surtout, à mon avis, des évolutions par à-coup. Voilà, en fonction d'une œuvre qui va marquer et qui va modifier le mythe et la mythologie. Voilà, je pense plutôt voilà, à des évolutions par à-coup plutôt qu'une évolution régulière qui existe aussi, mais de manière beaucoup plus faible.
Camille, t'as travaillé sur les fantômes,
ouais.
T'as travaillé sur les zombies,
ouais.
Tu es passionnée par la mort.
Oui.
Y a-t-il une autre figure comme ça, archétypale, qui t'intéresse?
Bah, moi, j'aurais dit pour le futur, c'est un pari, hein, je ne suis pas certaine, mais même si toi, tu l'as classé dans stable, moi, j'aurais dit les fantômes. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avec les fantômes, ça n'a pas encore été fait. Après, sur cette question des archétypes, je pense aussi, on est tous en train justement de chercher le prochain en disant, voilà, maintenant les zombies, c'est bon, on les a fait. Et j'imagine qu'on va tous avoir la même idée au même moment, et du coup, c'est ce qui crée une mode, en fait, en arrivant, mais c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Donc, moi, je pense que je vais miser sur les fantômes à l'avenir.
Et toi, il y a une figure que tu aimerais utiliser dans un des prochains moments?
Fantômes, ouais. Pour l'instant, je travaille sur des fantômes, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant, on peut le traiter de plein de manières, et moi, notamment, je le travaille en jeunesse, et ça permet effectivement d'aborder la mort, mais d'une manière qui ne fait pas du tout peur, paradoxalement, au lecteur, le fantôme. C'est... Non, ça va.
D'accord, très bien. Et toi, Karim, donc toi, tu as enchaîné les zombies, les fées et Cthulhu.
Cthulhu,
ouais. Est-ce qu'il y a une autre figure archétypale qui t'intéresse?
Ouais, plein. Moi, j'aime bien les modes parce que ça permet de détourner un peu les stéréotypes. Donc, je sais pas, on verra. Hein.
D'accord.
N'importe quoi. Mais en fait, que ce soit les zombies, les fées, les fantômes, je trouve qu'il y a toujours des choses à inventer, il y a toujours des choses à dire. Mmh. Il y a toujours des... Même les vampires, on peut très bien s'amuser à faire quelque chose de nouveau. Et... Donc, c'est... voilà. Donc,
Ok.
Voilà.
Est-ce qu'il y a une question dans le public? Oui? Non? Dites-nous. Oui? Est-ce que vous pouvez parler bien fort?
Ouais, alors ça, je sais qu'on en parle souvent, mais moi je l'ai pas vu souvent. Ça, il y est dans le, pas dans le premier Romero, mais c'est le deuxième ou le troisième, je sais plus, où il se retrouve dans un supermarché, où effectivement c'est vraiment où les zombies en boîte morts, zombifiés, ils gardent les réflexes. En fait, ils ont des réflexes, ils vont vers leurs produits, vers leurs trucs. Ils constituent une sorte de masse morte, mais qui a été tellement zombifié par la société qui... Mais ça, je l'ai pas vu souvent, hein. J'ai bossé sur pas mal de bouquins de zombies et j'ai vu pas mal de livres, et alors donc c'est un truc à mon avis intéressant, mais je suis pas certain que ça soit utilisé souvent par les auteurs ou par les réalisateurs,
hein. C'est plus les vampires qui se souviennent de leur vie passée, qui ont encore des sentiments, genre de choses. Les zombies, théoriquement, n'ont pas de souvenirs de leur vie passée. Après, on peut faire évoluer ça dans la littérature, hein, puis avoir des contre-exemples. Mais de manière générale, n'ont pas de souvenirs de leur passé, n'ont pas de sentiments, n'ont pas de scrupules, par exemple, à tuer, ce que peut avoir un vampire. C'est une des différences entre les deux. Voilà.
Et c'est au cœur de ton livre, Camille.
Oui, il y a la question de la mémoire, mais c'est vraiment pas la mémoire des zombies, hein. C'est vraiment la mémoire des gens qui sont autour. Mais pour cette question, je n'ai pas vu non plus beaucoup des zombies qui se rappelaient. J'imagine que dans cette scène que tu décris sur le supermarché, ce qui est critiqué derrière, c'est la société de consommation, les habitudes, etc. Et moi, du coup, c'était pas du tout ce que je voulais critiquer dedans, donc j'ai pas du tout travaillé là-dessus, même si c'est vrai que c'est un thème intéressant.
Il y a un roman qui était sorti chez Bragelonne et qui était passé en film. où un zombie devenait amoureux, c'est comment il s'appelait? Oui, voilà. On en pense ce qu'on en veut, mais en tout cas, il était dans le thème, effectivement, quoi. Bon. Mais il était mort, mais il était encore beau et il avait encore des sentiments et son cœur battait plus, mais bon, quand même, il était séduit par la jeune femme.
Moi, j'ai lu un livre qui s'appelait J'ai embrassé un zombie et j'ai aimé ça. Et non, mais c'est pas une connerie. Hein. Non, alors j'ai lu le début, hein, et c'était vraiment un peu relou parce que, en fait, il était à l'école, donc le zombie venait à l'école, donc il y avait une jeune fille qui était quand même un peu amoureuse de lui, même s'il sentait un peu mauvais, quoi. Mais bon, au bout d'un moment, disons que dans un roman, le zombie, il faut quand même, si on veut en faire un personnage, il faut quand même qu'il ait une interaction avec les autres, à part. Mais ce que tu parles, c'est plutôt du côté du réflexe ou. Et je pense qu'il doit y avoir d'autres exemples, mais je pense pas que ça soit même inconsciemment. Je suis pas certain que les auteurs aient ce message en fait.
Alors c'est vrai, il y avait le livre aussi, celle qui avait tous les dons, où là le zombie est un zombie, mais reste complètement conscient avec ses souvenirs d'avant, et en fait c'est l'étape prochaine de l'évolution humaine. Et effectivement, il y a peut-être cette idée là-dedans.
Je vous conseille aussi une nouvelle de Dan Simmons où on a une enseignante qui fait classe à des enfants zombies. Qui sont attachés en cas d'apocalypse en fait, et elle continue à faire classe en espérant qu'un jour il y ait une réaction en face, quoi. Voilà. C'est dans le recueil L'amour, la mort, et je sais plus le titre de la nouvelle. Et c'est
en tant que prof, je vis ça tous les jours. Hein. Ouais. J'espère un jour qu'il y aura une réaction en face, mais non, mais j'aimerais bien.
Il y a une série pour parler d'histoire de zombies un peu décalée, un peu. Qui change du truc de bateau. Il y a une série anglaise qui s'appelle In the Flesh, dans la chair, et qui est très courte, hein, qui doit faire trois fois trois épisodes, ou deux fois trois épisodes, je me rappelle plus. Qui, en fait, c'est l'histoire de. Il y a eu une épidémie zombie, là, c'est plus une maladie. Donc les gens se sont lâchés, ils ont bouffé leurs voisins, c'était sympa. Et puis ils ont réussi à les guérir, en fait. Donc il faut les garder, leur donner leur dose de je sais pas quoi, parce que sinon ils risquent de tomber. Donc ils sont un peu. Blême, pâle, et ils essayent de se réinsérer dans le village là, ou dans la ville. Et donc c'est un peu compliqué parce que le voisin, t'as mangé la fille du voisin, donc il est pas très sympa avec toi. Enfin, mais ça, c'est vraiment intéressant, quoi. Le film est vraiment bien et il montre. Du coup, il utilise le côté zombie pour avoir une sorte de vision sur l'insertion de l'autre, justement. Alors c'est pas des migrants là, mais c'est des gens décalés qui font réinsérer dans une société, et ça c'est vraiment bien fait, ce truc là c'est pas très long, et je vous le conseille.
Et t'as aussi Les zombies qui ont mangé le monde, qui était une BD chez Humano, où les zombies revenant, du coup les grands-mères reviennent aussi et les grands-pères, et c'est donc deux pauvres types qui sont chargés d'éliminer discrètement les grands-mères qui reviennent, enfin les belles-mères surtout, qui reviennent chez les gens, enfin ces zombies qu'on aimerait plus voir, hein, parce que du coup comme ils reviennent, on est bien obligé de les héberger, puisqu'ils reviennent automatiquement vers vous. Et, est-ce qu'il y a une autre question?
Ouais.
C'est le principe de l'anthropophagie dans plein de tribus, c'est de manger l'ennemi, généralement l'ennemi pour choper ses forces. Il y a une série qui s'appelle iZombie, qui, moi je trouve pas ça fabuleux, mais c'est l'histoire d'une fille qui est zombifiée, qui effectivement quand elle est obligée de manger des cerveaux, donc elle le fait avec son pote qui est médecin ou je sais plus quoi, donc elle a des flashs de la vie passée des gens qu'elle mange, donc bon, plus la série progresse, moins les zombies, mais dans l'idée... Mademoiselle. Mais à nouveau, ouais, je vois, à nouveau, on s'éloigne de la figure du zombie qui est le truc de masse, la sorte de ruche qui avance et qui. C'est des zombies qui ont une conscience en fait. Voilà, c'est juste une sorte de maladie. Voilà, ouais, oui, qui mange le voisin. C'est embêtant pour les voisins. Mais bon, après, on peut discuter avec eux. Il faut juste pas être son voisin.
Y a-t-il encore une autre question sur les zombies? Une fois, deux fois, trois fois. Eh ben, on va vous remercier. Merci aux auteurs, ils sont tout de suite en dédicace. Et puis restez là, une autre table ronde arrive. Merci à vous.